Écoutez-nous sur internet dw.com/français.
Le début du mouvement est basé sur des revendications d'ordre économique. Il y a une crise économique qui frappe le Soudan aujourd'hui qui est terrible. Il y a très peu de devises fortes. La monnaie nationale a été dévaluée sur le marché noir de façon extrêmement rapide et importante. Donc la population veut vivre et évidemment... Si certains au sein du régime se sont enrichis grâce à l'argent du pétrole ou aux spéculations foncières, la majorité de la population, elle est derrière et elle n'arrive plus à survivre. Donc c'est ça qui, initialement, a suscité les premières protestations. Celles-ci se sont peu à peu radicalisées compte tenu de l'absence d'écoute des officiels soudanais. Et la figure de Béchir est devenue un peu, et son départ sont devenus un peu les deux moyens d'unifier des revendications qui sont assez disparates là aussi, puisqu'il y a d'autres manifestations qui étaient plus politiques, d'unifier donc tous ces différents courants qui se retrouvent dans les manifestations et qui aujourd'hui montrent leur force en demeurant juste en face de l'état-major des armées soudanaises.
Oui, une situation sociale devenue problématique depuis que le Soudan a été scindé en deux, puisque selon nos infos, au moins trois quarts des réserves pétrolières se trouvent en ce moment au sud, hein, ce qui a eu pour conséquence...
Oui, alors bon, à la fois, si vous voulez, il y a un double problème, c'est à la fois les ressources pétrolières sont au sud, mais en même temps, compte tenu de la crise politique au sud, ce pétrole ne peut pas être exporté dans les quantités dites. Et évidemment, cela, parce que le gouvernement du Nord-Soudan touche des royalties sur les exportations, qui sont significatives, et donc le fait que les exportations se soient réduites de façon importante signifie que le gouvernement de Khartoum ne touche plus suffisamment d'argent, contrairement aux espoirs qu'il avait.
Dernière question, M. Marshall. On ne le souhaite pas, mais si jamais le président Béchir n'était plus président, où est-ce qu'il va aller trouver refuge?
Alors écoutez, il y a plusieurs options qui restent possibles. La première, c'est évidemment le Soudan. On a évoqué l'Arabie Saoudite. Bon, compte tenu en ce moment de l'amertume de Al Jazeera envers le président soudanais, on peut douter que le Qatar offre un accueil chaleureux aux dirigeants soudanais, mais rien n'est impossible, encore une fois. Il pourrait bénéficier de points de chute dans plusieurs pays, notamment de la péninsule arabique.
Et pourquoi pas au Tchad, voisin ?
Les relations entre le Tchad et le Soudan, c'est des relations qui sont beaucoup plus compliquées qu'elles n'en ont l'air. Et si les relations entre les deux dirigeants ne sont pas mauvaises au niveau personnel, je crois qu'il ne faut pas oublier que les uns comme les autres ont prouvé qu'ils étaient capables de vendre leurs amis.
Voilà, donc l'allié de la France, Déby, peut bien livrer Omar Hassan al-Béchir à la CPI hein, s'il trouvait refuge au Tchad.
Disons, ce ne serait pas quelque chose de totalement impossible, sachant que, si vous voulez, même si les deux hommes s'entendent plutôt bien, y a des intérêts de l'État tchadien qui peuvent pousser à cela.
Le Soudan n'habite plus hein, les groupes armés tchadiens depuis quelques années.
Depuis 2009.
Voilà, donc les relations sont au beau fixe.
Encore une fois, il faut bien comprendre que l'initiateur de cette politique entre 2005 et 2009, donc, qui a visé à susciter et donner l'hospitalité aux groupes tchadiens, c'est en fait Salah Gauche, qui est aujourd'hui le chef des renseignements soudanais. Omar al-Béchir a suivi parce qu'il était dans un moment très difficile. Il s'est rabiboché avec Idriss Déby. Mais évidemment, si vous voulez, on est quand même face à des chefs d'État qui sont prêts à tout pour leur propre survie et donc qui du coup ne peuvent pas avoir de véritables amis.